Bonsoir Françoise Ladouès. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à la librairie Mola pour venir parler de votre dernier ouvrage paru chez Nouvelle Cité, donc Pierre, Paul, Jacques et les autres, enquête sur les premiers followers de Jésus-Christ. Alors, vous étiez déjà venu il y a quelque temps faire une conférence autour de votre livre précédent chez Nouvelle Cité qui s'appelait Jésus, approche culturelle. Et là, vous revenez donc dans la même optique, dans la même lignée, avec un livre sur les successeurs de Jésus. Alors, c'est une très bonne nouvelle, car c'est un livre qui m'a personnellement beaucoup intéressé. Et comme lors de votre premier livre sur Jésus, ce qui compte avec vous, c'est que c'est extrêmement pédagogique. C'est toujours d'une grande clarté. Et c'est ô combien utile quand il s'agit d'aborder des questions concernant les apôtres du Christ et tout ce contexte historique du 1er siècle après Jésus. Donc Pierre, Paul, Jacques, qui sont donc les trois figures majeures de la succession du Christ, mais il y a les autres, comme vous l'avez précisé. Alors Pierre, Paul, Jacques, ils sont inégalement connus. On connaît surtout Paul de Tarse, on connaît un peu mieux Pierre aussi, on connaît un peu moins Jacques, sauf peut-être pour la parenté qu'il aurait avec Jésus, mais on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, comme vous le dites, ce sont trois figures essentielles de la construction d'une foi nouvelle qui va devenir la grande Église, le christianisme. Comme vous dites, ce sont des pierres d'angle de ce que va devenir la chrétienté. Mais justement, ce qui est important aussi, c'est que au-delà des hommes, ce sont des communautés, car à la mort de Jésus, après la mort de Jésus, en l'an 30, il existe plusieurs groupes d'hommes éparpillés sur un territoire assez grand. Et ce livre est passionnant en ce sens qu'on retrouve différents courants, différentes approches. L'église de Pierre, celle de Jacques et celle de Paul qui sera missionnaire, Paul qui occupe une place un petit peu différente parce qu'il va énormément voyager, parce que c'est un converti. Bon, on aura évidemment l'occasion d'en parler. Mais tout d'abord, alors il est important de préciser aussi que donc votre approche est historique. Essentiellement, vous précisez toujours que, évidemment, il y a un enjeu théologique quand on lit les textes, et vous nous initiez aussi très bien à la lecture des sources, c'est-à-dire comment, il y a des exemples concrets à la fin de votre livre, comment prendre un texte, comment le lire, en précisant toujours que un texte religieux est un texte historique, est un texte que l'on doit considérer comme n'importe quel autre texte, en fait. J'aimerais commencer peut-être tout simplement par parler de ces trois figures que sont Pierre, Paul, Jacques. J'aimerais peut-être commencer par parler de Jacques, parce que c'est celui qu'on connaît le moins bien. Mais d'abord, peut-être nous présenter rapidement ce qui a été à la base de votre envie d'écrire ce livre à la suite de Jésus, pourquoi justement il vous a semblé important d'écrire un livre sur ces trois figures et les autres figures. Et ensuite, peut-être commencer par nous parler de Jacques. Et une précision aussi sur un apôtre, parce que là, ce sont trois apôtres du Christ. Qu'est-ce qu'un apôtre aussi ? Est-ce qu'un apôtre a forcément connu Jésus ou pas ? Voilà. Donc, il y a trois questions en une. Vous commencez par celle que vous préférez, mais en tout cas, je vous laisse la parole.
Bonjour. Bon, alors je vais commencer par la raison pour laquelle j'ai fait le livre à la suite de celui de Jésus. Quand on écrit un livre sur Jésus, on est obligé de travailler sur des sources qui lui sont postérieures. Et toutes les personnes qui ont écrit sur Jésus ont écrit au minimum 50 ans après Jésus. Enfin, pas tout à fait, mais enfin, dans les années 50 ou plus tard. Donc, il est logique qu'on s'intéresse aux sources, finalement, à ceux qui sont à l'origine des textes qui ont été écrits sur Jésus. Ça, c'est la raison historique. Je disais avant de commencer qu'il aurait peut-être été même plus judicieux de faire les deux livres à la fois, parce qu'il y a des choses qui sont reprises dans le livre Pierre, Paul, Jacques et les autres, que j'ai déjà dites à propos de Jésus, parce que quand je parlais de Jésus, je parlais des sources. Et je disais, on n'a pas écrit sur Jésus avant la fin du siècle. Puis il y a une raison qui est aussi plus interne au sujet. On voit dans le livre que j'ai écrit qu'un des auteurs, qui est Luc, enfin qu'on appelle Luc, l'auteur de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres, a cru bon d'écrire un évangile et sa suite. Et donc, fondamentalement, ça voulait dire que dans sa tête, l'évangile n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas une suite à cet évangile. S'il n'y a pas les communautés qui se sont créées à la suite de la mort et pour eux de la résurrection de Jésus, ça n'a pas d'intérêt. Donc, l'un sans l'autre, ça n'existe pas. Alors, chez Luc, c'est extrêmement clair. Les autres le disent peut-être d'une façon un peu moins précise, mais c'est quand même l'idée. Voilà, donc, un livre ne va pas sans l'autre. Alors, c'est pas pour vous faire acheter les deux, hein, mais c'est quand même un peu ça. Voilà. Ça, c'est la réponse à la première question. Ça va ?
Oui, c'est très très bien. oui, alors voilà, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, d'abord, effectivement, juste une définition des apôtres. D'un apôtre, parce que, voilà.
Alors, au sens strict, normalement, un apôtre, c'est quelqu'un qui a connu Jésus et qui fait partie des 12 que Jésus avait choisis. Donc, Pierre était un apôtre. Pierre était un apôtre, voilà. Ensuite, ce terme a été repris par Paul, parce que Paul a estimé qu'il avait eu une rencontre telle avec Jésus qu'il se donnait ce titre d'apôtre. Et il signait Paul apôtre. Bon. Mais il est à voir que lui se dit apôtre, d'autres sources ne veulent pas que Paul soit apôtre. Et par exemple, dans les Actes des apôtres, on ne dit jamais que Paul est apôtre. Mais Paul se dit apôtre. Voilà. Après, l'ensemble des gens qui ont suivi Jésus pendant sa vie ou qui se sont convertis à le terme de conversion est impropre. Enfin, on cru hein, que Christ était ressuscité et on cru hein, en Jésus-Christ. Tous ces gens, proches de près ou de loin, on les appelle disciples. Hein. Et disciples, c'est un terme générique qui convient à la fois pour ceux qui ont connu Jésus de son vivant et pour ceux qui ne l'ont pas connu, mais qui se sont ralliés, si j'ose dire, à sa cause par la suite. Et je trouve que la plus jolie expression hein, de disciple, elle est chez Luc aussi. Chez Luc est disciple celui qui se met à genoux au pied de Jésus, voilà, et qui écoute. Et donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent être disciples, et pendant longtemps encore après.
Alors, justement, je parlais de Jacques tout à l'heure. C'est peut-être le moins connu des trois, me semble-t-il, hein, en raison notamment de sa postérité qui est peut-être un peu plus faible, on en parlera. Jacques, il est connu surtout parce que effectivement, c'est le frère supposé de Jésus. Alors, est-ce que justement, vous apportez une réponse, vous, à cette question, qui n'est peut-être pas essentielle, j'en conviens, mais quand même, qui, je crois, diffère suivant les confessions chrétiennes ?
Oui, alors Jacques, enfin, je précise tout de même qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas beaucoup de renseignements sur Jacques, et on n'en parle pas tellement, c'est que les communautés ont été concurrentes et il y a beaucoup de documentation que l'on n'a pas sur Jacques parce qu'elle a été, disons, cachée par d'autres communautés qui ne voulaient pas. Et donc, il y a une documentation sur Jacques qui n'existe pas, des documents qui sont perdus. Parce qu'il faut quand même bien qu'on se dise que pour toute cette période, nous parlons le plus des documents que nous avons. Pourquoi nous parlons tellement de la communauté de Jérusalem ? Parce que nous avons les Actes des Apôtres. Mais ça se trouve, il y a peut-être d'autres documents que nous avons perdus qui nous renseigneraient sur des communautés que nous ne connaissons pas.
Alors, c'est intéressant, excusez-moi, parce que Jacques est celui qui a repris la communauté de Jérusalem.
Tout à fait.
Donc, on peut dire que c'est le successeur direct de Jésus, d'un point de vue un peu... même si ça paraît trop dynastique peut-être de dire ça, mais...
Quoique,
parce qu'on parle aussi de dynastie chrétienne, etc. Mais en tout cas, est-ce que justement, il y aurait pourquoi les documents auraient été... est-ce que c'est quelqu'un qui pouvait inquiéter ou qui pouvait déranger ?
Oui, alors, j'essaie de prendre les choses dans l'ordre. Vous m'avez demandé d'abord si Jacques était le frère
oui,
de Jésus.
Pardon.
Alors, si vous voulez, les évangiles disent clairement... que Jésus n'était pas le fils de Joseph, et donc, mais qu'il était le fils de Marie. C'est tout ce que disent les évangiles. Donc après, on peut faire toutes les suppositions que l'on veut sur cet homme, Jacques, qui est appelé dans beaucoup de documents « frère de Jésus ». Alors il y a des habitudes qui sont un petit peu différentes selon les confessions chrétiennes, mais qui ne sont pas non plus partagées par tout le monde. Enfin, en gros, les protestants pensent plutôt, en général, que Jacques était le demi-frère de Jésus, c'est-à-dire que Marie a pu avoir des enfants après la naissance de Jésus. Voilà. Ensuite, les orthodoxes pensent, c'est un peu dans l'autre sens, que c'est plutôt Joseph qui était veuf et qui avait des enfants au préalable, et donc qu'il serait aussi demi-frère, même par une autre, par d'autre côté. Et les catholiques ont tendance à penser que le terme qui sert à dire frère, dans le monde sémitique, peut aussi signifier cousin, et donc la tradition catholique, c'est plutôt que Jacques aurait été un cousin. Voilà. Ce n'est pas, rien de tout ça n'est article de foi, hein, pour personne. Mais ça donne des pistes.
Oui, c'est Paul qui appelle Jacques frère du Seigneur.
Ah, pas seulement. Ouais. Il y a beaucoup de documents. Et vous savez, dans l'Évangile, quand même, il y a plusieurs endroits où on parle des frères de Jésus. Mmh. Hein, des frères de Jésus qui ne l'avaient pas suivi, qui n'étaient pas d'accord avec lui, etc. Bon, donc, ça semble assez normal. Bon, et ça, j'en parle dans le premier livre. Jésus n'a certainement pas vécu dans une famille nucléaire avec papa, maman et Jésus. Il y avait certainement toute une ribambelle d'enfants autour de lui, comme dans ces pays-là. Alors, quels étaient exactement leurs liens de parenté ? Bon, alors, c'est nous qui sommes un peu compliqués à vouloir absolument savoir quel est le lien de sang exact. Mais tout le monde s'est levé à la fois, là.
Donc, je reviens sur ma question. Effectivement, vous précisez dans votre livre, en parlant de Jacques, qu'il est difficile à cerner, qu'il est difficile de le connaître. Et vous nous expliquez que c'est parce que nous avons perdu de nombreux documents.
On a perdu beaucoup de documents, oui.
Et donc, je reviens sur la question. Effectivement, Jacques dirige la communauté la plus importante symboliquement des Juifs, donc la communauté de Jérusalem. Comment était-il perçu ? Est-ce qu'on le sait, ça, à l'époque ?
Alors, Jacques, c'est un Juif qui a cru en Jésus ressuscité, en Jésus Messie ressuscité. Donc c'est lui qui a, vous parliez de dynastie tout à l'heure, mais il est probable que très vite, il a été perçu par beaucoup comme le successeur normal. Et en tout cas, il a pris une ampleur, un rôle qu'il n'avait pas jusque-là. Bon. À côté de ça, Pierre avait eu un rôle important aussi et un peu unique, puisque Jésus lui avait toujours parlé de lui comme le premier de ses apôtres. Et il s'est avéré qu'il y a eu une concurrence. Alors, peut-être une concurrence de pouvoir. En tout cas, entre la communauté de Jacques qui restait à Jérusalem et les communautés que Pierre a pu fonder en allant un peu plus loin de Jérusalem, il y a eu de la concurrence. Et il y a eu de la concurrence aussi au niveau des idées. Jacques est resté le garant de tout ce qu'il y avait de plus juif, hein, alors que Pierre était plus ouvert, un peu plus ouvert. Voilà, et Paul encore plus. Alors quand on dit plus ouvert, c'est pas ouvert au niveau des idées, c'est ouvert à des personnes qui n'auraient pas pratiqué le judaïsme. C'est-à-dire que la grande question à cette époque-là, ça a été, est-ce qu'on peut devenir chrétien si on n'a pas été juif ? C'est une grande question. Parce que tous les disciples du Christ sont des juifs. Bon. Et la question c'est, après, est-ce qu'on peut croire en Christ et être disciple de Christ si on n'est pas juif ? Alors Paul, la réponse est oui. Pierre, la réponse est peut-être. Et Jacques, en gros, c'était non. Voilà, pour faire simple.
Parce qu'en fait, Jacques et Pierre font partie d'une génération que l'on appelle les judéo-chrétiens.
Oui, alors...
C'est-à-dire, c'est l'époque où, effectivement, Jésus et les disciples de Jésus, ce n'était qu'une affaire juive qui concernait que les juifs et voilà.
Tout
et
à
les
fait.
Païens n'étaient pas du tout encore concernés par...
Absolument, mais ce n'est pas tellement une question d'époque parce que Paul, c'était en même temps, oui. Voire au tout début. Hein. Sachant que tous les juifs, tous les chrétiens, tous les croyants en Christ sont juifs, effectivement, on peut parler de judéo-chrétiens. C'est quand Pierre propose qu'il y ait des chrétiens, que l'on puisse croire en Christ, être baptisé en Christ, sans avoir été juif, sans être circoncis, donc, quand Paul propose là, qu'on a des chrétiens qui viennent du monde païen, on dit quelquefois en parlant d'eux, des pagano-chrétiens, helléno-chrétiens, enfin, parce qu'ils viennent du monde grec. Et finalement, le monde chrétien va se forger autour de ces deux pôles qui vont être très très longtemps. Hein, parce que le gros des troupes chrétiennes, ce sont des juifs. Hein.
Et alors, justement, on peut aussi se poser la question, peut-être un petit peu naïf, mais qu'il s'agit de Jacques, de Pierre ou de Paul, ils ont tous été, ils ont tous connu le martyr. Jacques, du coup, a terminé sa vie dans les années 60, je crois, lapidé donc par les juifs.
Oui.
En tant que garant justement d'une communauté qui se veut purement judéenne, quelles ont été les raisons d'une telle hostilité de la part de la communauté juive à l'égard de Jacques?
Je pense que c'est une question compliquée.
Ah oui, pardon.
Je pense que pour un juif, c'était insoutenable que le Messie ait pu être crucifié. C'était pas possible. Quand dans la pratique, ça a mené à des pratiques différentes et en particulier dans un rapport à la loi qui n'était pas le leur, c'était insupportable. Voilà. Je crois que c'est ça, un Messie crucifié, c'était pas admissible.
D'accord. Donc on a parlé de Jacques, on a un petit peu parlé de Pierre. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'étonner presque du fait que Pierre ait gardé ce statut dans la tradition apostolique. Bah, on parle de Pierre souvent comme du premier pape, d'ailleurs c'est anachronique.
Complètement, oui.
C'était le premier évêque de Rome, par contre.
On peut dire ça comme ça. Pierre, c'est un apôtre.
Ouais.
C'est un apôtre et c'est le premier des apôtres. Alors après, je crois que ce qui est très clair, c'est que la transmission apostolique a fait que, dans la tradition catholique, on voit en Pierre le premier des évêques et donc l'ancêtre des papes. Mais c'est seulement les catholiques qui disent ça. Par contre, ce que tout le monde dit, c'est qu'effectivement, Pierre a toujours dans l'évangile la première place, la place du premier. Et chaque fois que les apôtres sont cités, Pierre est toujours cité en premier. Il n'y a pas d'ordre pour les autres. Enfin, il y a des changements éventuellement. Pierre est toujours en premier. Après, je ne sais pas si c'est une question que vous avez l'intention de me poser, mais je crois que c'est intéressant. Je crois que c'est intéressant de voir que on a très peu de renseignements sur Pierre pour lui-même. On a des renseignements pour Pierre le premier, justement, parce que on a parlé de lui, on a écrit sur lui dans les évangiles et au-delà. Parce que, si vous voulez, les évangiles avaient en tête ce rôle de la future Église.
La phrase du Christ,
oui.
Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai l'Église.
Voilà, alors...
Ça marque aussi un inconscient collectif.
Voilà, oui, mais l'Église, c'est seul Matthieu qui insiste sur cette notion d'église que Pierre va avoir en responsabilité. Et oui, tout à fait. Mais cette place de Pierre, c'est ça qui est premier. C'est-à-dire que Pierre, il est connu comme le premier, et puis dans son rapport à Jésus. Mais le personnage de Pierre lui-même, il n'est pas tellement... on parle pas de lui, on ne sait pas s'il était coléreux, grand, petit.
On parle justement de cette faiblesse de caractère au moment de son reniement.
Voilà, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on trouve partout. Hein. C'est-à-dire, il a été choisi, bien que ayant lâché. Mais vous précisez, c'est central.
Vous précisez une chose importante concernant Pierre, quand même, c'est qu'il aurait été disciple de Jean-Baptiste. Alors, je ne sais plus dans quelle source on peut trouver ça, ce qui montre que, quand même, Jésus était cousin de Jean-Baptiste et Jésus a été, entre guillemets, initié aussi par Jean-Baptiste, qui était un prêtre. Le fait aussi que Pierre eût été un disciple montre un réel engagement mystique, un réel engagement aussi dans la foi. Ça peut être aussi une donnée...
Oui, alors c'est dans l'évangile de Jean qu'on voit que les premiers disciples de Jésus sont des disciples de Jean-Baptiste. Ils sont passés de Jean-Baptiste à Jésus. Et donc il y avait André qui est le frère de Pierre. Ouais. Donc Pierre était très probablement avec et donc ça s'est passé comme ça. Oui, j'ai mis dans mon livre que ça... On est poussé à des suppositions puisque là on n'a pas grand-chose sur la personne. Ça doit vouloir dire quand même que Pierre et André et les autres étaient des gens qui étaient en recherche. Hein. On ne suivait pas Jean-Baptiste comme ça pour aller se promener. C'était vraiment... un désir de transformer l'organisation juive, de la religion juive. Ceux qui suivaient Jean-Baptiste, c'était un peu des... pas des révolutionnaires, mais enfin des gens qui voulaient que ça bouge. Voilà. Donc, très probablement, Pierre était dans cette mouvance-là, et après, il a fait partie de ceux qui sont passés de Jean-Baptiste à Jésus.
Alors, après Jacques, après Pierre, parlons un petit peu de Paul aussi, qui est un peu à part, enfin, on l'a vu déjà, parce que Paul est d'abord quelqu'un qui persécute les chrétiens avant de se convertir au christianisme sur le chemin de Damas. C'est aussi quelqu'un qui est un citoyen romain, qui a étudié l'hébreu, qui connaît le grec, qui est quelqu'un qui voyage, qui devient missionnaire et qui a une volonté effectivement presque d'universaliser cette église naissante. Mais il est quand même un peu à part, justement, ne serait-ce que par son ouverture aussi à des territoires plus lointains et à des païens, à des non-juifs.
Oui, il est à part pour beaucoup de choses. La question, c'est pourquoi est-il à part ? Enfin, quelle est son originalité ?
Oui, voilà. Ouais.
Il est un des premiers qui a vraiment pris en compte, qui a été touché et qui a voulu faire savoir que Jésus était ressuscité. On a des textes de Paul qui datent de 50. Donc ça veut dire qu'il a déjà commencé à voyager, à dire ce qu'il croyait, en quoi il croyait, et à l'écrire. Donc ça vient vraiment de lui. Des textes aussi anciens que les siens, on n'en a pas.
Oui, oui, ce sont quasiment les premiers textes.
Ah, ce sont les premiers textes.
Oui, oui. Avant les évangiles.
Oui. Ah, bien avant les évangiles.
Oui, mais c'est bien de le rappeler, mine de rien, que tout les évangiles ont été publiés entre 70 et 100. Ouais.
Voilà, Paul a écrit la lettre la plus ancienne, c'est la lettre aux Thessaloniciens en 54. Ouais. Les évangiles sont écrits à partir de 70, ouais. Donc c'est une génération après. Ouais. Voilà. Alors Paul, vous avez parlé de conversion tout à l'heure, pensez à un mot qui est discuté.
Ah oui.
En fait...
Pourquoi
C'est-à-dire qu'il était juif, et puis il est resté juif. Oui. Ça, j'insiste beaucoup sur ça dans mon livre. Pierre, non seulement il est né juif, et il est mort juif.
Oui.
Excuse-moi.
Oui.
Paul, il est né juif, il est mort juif. Mais juif, chrétien. Parce que c'était pas antinomique, comme on a dit tout à l'heure. Tous les chrétiens sont des juifs. Hein. C'est-à-dire qu'au sein du judaïsme, qu'il a continué à pratiquer, il a compris, il a dit... que c'était Jésus, le Messie, qui était ressuscité, et que ce Messie délivrait le peuple juif des œuvres de la loi. Pas de la loi, mais des œuvres de la loi. Donc c'est important de voir sa position, qui a été très mal perçue par les juifs qui n'ont pas voulu le suivre. Et son originalité, c'est que partout où Paul est passé, il voulait convertir les juifs. On a le schéma typique de Paul. Il partait, mettons, dans une cité. Il allait à la synagogue. Il allait parler aux Juifs. Et il allait prier avec les Juifs. Il allait, le jour du Shabbat, il allait faire tout ce qu'un Juif doit faire le jour du Shabbat. Et puis, au cours de ce qu'il disait, il disait « Christ est ressuscité ». Mais pour lui, c'était interne. Et alors là, les gens qui l'écoutaient, ben, il y en avait qui disaient « Ah oui, c'est vrai, c'est bien ». Puis il y en avait plein à qui ça ne plaisait pas du tout. Hein. Toujours ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire aussi, les Juifs ne pouvaient pas accepter.
Il se fait chasser.
Donc on le chassait, alors il partait en courant, et puis on l'appelait. Enfin, là je vous renvoie aux Actes des Apôtres, le schéma est toujours le même. Donc ça l'a amené à dire, bon ben si les Juifs n'en veulent pas, eh ben on va le dire aux autres. Et si vous voulez, c'est dans un second temps que Paul a voulu annoncer la nouvelle de Christ à ceux qui ne sont pas juifs. Mais dans un premier temps, c'est d'abord aux juifs qui veulent faire. C'est les juifs et après les autres.
Alors, il y a une chose intéressante aussi, et ça c'est notamment Simon-Claude Mimouni que vous citez dans votre livre qui en parle, et ce n'est pas le seul, c'est de rappeler aussi le contexte d'attente un peu apocalyptique, une eschatologie très forte, ce premier siècle après Jésus, où on a les disciples, enfin arrêtez-moi si je me trompe, les apôtres pensent qu'effectivement, ils n'en ont pas pour très très longtemps, que le royaume de Dieu est imminent, et justement la volonté de Paul de faire vite, c'est-à-dire de se dire qu'en diffusant le christianisme comme il le fait, de toute façon, c'est pour se préparer de manière un peu immédiate à une fin qui approche. C'est important aussi de rappeler ce contexte-là et du coup de se poser la question de est-ce que ces apôtres avaient conscience de construire quelque chose de durable ou au contraire, ils se disaient ben, c'est juste pour les 50 ans ou le siècle à venir
Non, non, vous avez complètement raison. Ouais. L'époque était apocalyptique, mais déjà l'époque de Jésus. Ouais. Lisez les évangiles, Jésus dit tout le temps vite. Vous avez, lisez Marc, ouais. Tout le temps vite, il faut le faire vite. Hein. Jésus est pressé. Ben, Jésus aussi pensait que ça allait arriver. Le royaume de Dieu, c'était pour bientôt. Et donc, c'est vrai dans tout le premier siècle. Et les premières communautés se sont organisées, enfin, ne se sont pas organisées, justement, parce qu'elles s'attendaient au retour de Jésus très vite. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils n'ont rien écrit. Hein. S'ils avaient su que ça allait durer si longtemps, ils auraient écrit beaucoup plus tôt. Là, ils n'ont rien écrit. Hein, tous les textes qu'ils avaient, ils les disaient oralement pour les célébrations, pour les nouveaux catéchumènes. Bon, c'est quand on s'est rendu compte que finalement Jésus tardait et qu'il y allait y avoir des générations avant que Jésus revienne, que là, il a fallu mettre noir sur blanc, faire des textes. Mais c'est venu très progressivement, hein, parce qu'il y avait vraiment une croyance que la fin du monde approchait, qui était pour tout le monde. Et c'est vrai pour Paul en particulier.
Ouais. Donc, on comprend très très bien que c'est donc une génération, Pierre, Paul et Jacques, et les autres, dans les autres, vous citez Étienne aussi, alors, qui est connu pour être le premier martyr,
voilà.
Mais qui n'a pas fait, enfin, qui a aussi, je crois, dirigé une communauté.
Oui, il faisait partie d'un groupe, justement, d'un groupe qu'on appelait les hellénistes. Dans les Actes des Apôtres, on voit bien que c'est un groupe particulier qui a eu pas mal de fil à retordre avec ce qu'on appelait les Hébreux. Bon, c'est toujours ce lien entre ceux qui sont juifs et enfants de juifs et ceux qui veulent s'ouvrir un petit peu à l'extérieur. L'intérêt d'Étienne, c'est de montrer vraiment, c'est le premier martyr, c'est presque une figure symbolique, hein. C'est le premier martyr, mais c'est important de se dire, les premiers martyrs n'ont pas été martyrs à cause des Romains. Les Romains, à ce moment-là, ils étaient plutôt en bonne relation. Hein. Ce sont les Juifs, hein, qui tue Étienne, parce que justement, Étienne avait une représentation du judaïsme qu'il ne pouvait pas supporter en voulant que le Christ soit ressuscité et surtout soit mort. Enfin, un Dieu qui meurt sur la croix, c'est pas possible.
Et Paul a participé à la lapidation d'Étienne.
Enfin, on dit qu'il était là.
Voilà. D'accord.
Alors c'est important. Les textes nous disent qu'effectivement il y a un suivi. Hein. On voit bien comment Paul a évolué. On voit son évolution. Mais plus qu'une conversion, c'est une évolution, une prise de conscience au sein de sa religion de ce qui a pu se passer.
Oui. Donc là, on parle des grandes figures et des communautés différentes. Il est intéressant aussi de se poser la question de savoir comment le christianisme a pu se propager aussi dans la population. Donc vous rappelez que ça s'est essentiellement diffusé dans les villes, oui. Pas dans les campagnes. Et que il y avait ce concept un petit peu, cette notion de maisonnée que vous rappelez. Enfin, vous pouvez nous expliquer justement comment.
Vous savez, à l'époque, le seul bâtiment religieux, c'était la synagogue. Il y avait évidemment pas d'église. Quand les apôtres et disciples allaient prêcher et constituer un petit groupe, ils allaient dans une maison. Le lieu, et une maison, c'était le lieu où se réunissait une famille, au sens très large, alors pour le coup, avec les cousins et tout ce qui va avec les esclaves, avec les serviteurs, puis même quelquefois avec des amis, des proches, hein. Et c'est ces cellules de base qui ont fait le début de l'Église. D'ailleurs, on dit les Églises. Hein. À cette époque-là, on dit même pas les communautés. Hein. Dans le texte, on trouve les Églises. Voilà. Et le christianisme est né de ça. Il est né de ces petites communautés. C'est pour ça que...
Un peu clandestine, finalement.
Clandestine, non. Enfin, après, au moment où les chrétiens ont été persécutés, bien sûr, il y a eu des moments où ils étaient clandestines, mais au départ, non, c'était pas clandestin, mais c'était quand même surtout très minoritaire. Très minoritaire et pas toujours accepté, et en particulier pas accepté par les juifs. Mais je crois que c'est important de se rendre compte, même après, pour l'histoire de l'Église. Avant qu'il y ait l'Église avec un grand E, ce qu'on appellera la grande Église, il y a eu pendant longtemps ces églises. Et l'Église avec un grand E qui est née, au IIe siècle, et puis qui a grandi puis maintenant, si vous voulez, le fondement, ce sont des petites églises, des églises locales, domestiques, comme vous dites. C'est fondamental. Alors c'est lié à la civilisation de l'époque, et c'est lié au mode de développement du christianisme. Et c'est pour ça que quand j'ai écrit Pierre, Paul, Jacques et les autres, c'est tous ces gens-là. Et finalement, c'est plus important. Enfin, le christianisme est né de ça. Non pas que Pierre, Paul, Jacques ne soient pas importants, mais ce sont ces communautés qui, fondamentalement, ont fait ce qui est devenu, par la suite, la Grande Église.
Alors, on parlait de persécution, justement, tout à l'heure. Il y a tout un chapitre sur les persécutions, sur le martyr aussi. Vous nous avez très bien expliqué que, d'abord, c'était plutôt les Juifs
au
qui
début,
étaient hostiles.
Au début, c'est les Juifs.
Les Romains n'y voyaient pas grand-chose. Voilà. Mais alors, par contre, comment c'est venu, comment petit à petit, puisque c'est vrai, en plus, je pense qu'on a tous en tête les persécutions romaines, parce qu'elles ont été violentes, mais elles sont venues plus tard. Alors, comment ça s'est fait? À quel moment?
Alors ça s'est fait progressivement. Au début, si vous voulez, les Romains ne risquaient pas à faire de persécution, puisque les chrétiens, on ne savait pas qui étaient chrétiens. Les chrétiens, c'était des juifs, donc ce n'était pas écrit sur leur figure qu'ils étaient chrétiens. La première fois où on a l'hypothèse qu'il y a eu une persécution, c'est en 64, au moment de l'incendie de Rome. On a pensé que c'était peut-être des chrétiens qui avaient mis le feu à Rome et que c'était à cause d'eux qu'il y avait ce feu. Alors, on pense plutôt, maintenant les historiens pensent que c'est Néron lui-même qui a mis le feu. Alors, c'était bien de trouver un bouc émissaire et les chrétiens faisaient office. Mais c'est compliqué parce que on ne savait pas que les chrétiens étaient chrétiens. Enfin, on ne savait pas qui ils étaient. Donc, comment aurait-on pu le deviner? Alors, on pense que peut-être, alors ça, je l'ai mis dans le livre parce que c'est anecdotique, mais c'est quand même assez intéressant, je trouve. On pense que les chrétiens attendaient sans doute la fin du monde. Bon. Donc, quand ils ont vu ce feu, quand ils ont vu cet embrasement, ça correspondait bien à l'image qu'ils se faisaient de la fin du monde. Il est possible qu'ils aient sauté de joie, qu'ils aient cru que c'était Jésus qui revenait. Donc, c'est peut-être comme ça. Ce que je vous dis, c'est une hypothèse, mais c'est pas impossible. Hein. Mais j'ai un collègue historien qui m'a dit « Ouais, c'est un peu exagéré. En fait, on savait pas que c'était... » Bon, c'était une hypothèse. Mais c'est pas impossible. Hein. Ils ont sauté de joie en disant « Christ est revenu ». Ben voilà, ça les a dénoncés. Et donc, ça les a pas rendus très sympathiques. Et petit à petit, voilà, les chrétiens sont devenus de plus en plus antipathiques. Et il faut le dire, plus à la population qu'aux autorités. Parce que justement, ils vivaient entre eux. Ils pensaient que Christ allait revenir. Alors, ma foi, ils n'avaient pas trop besoin de se mélanger. Et ils se sont fait des ennemis. Voilà.
Oui.
Alors on les a accusés d'un tas de choses qu'ils n'avaient jamais faites. On les a accusés de boire du sang d'enfant, etc.
Oui. Bon, d'orgie.
D'orgie. Alors, c'est évidemment pas vrai. Mais par contre, si vous voulez, ils étaient assez contents d'être un peu à l'écart. Et ça les a pas aidés à s'intégrer dans cette société romaine, d'où des heures.
Qui pourtant était une société ouverte à des cultes étrangers. Les Romains vénéraient des... aller dans des temples et vénérer des cultes égyptiens, mésopotamiens, romains, grecs. En plus, c'était une société qui était polythéiste au sens plein du terme.
Oui, et mais alors... le manque de chance, les chrétiens, eux, n'étaient pas polythéistes.
Voilà.
Et donc...
Oui, mais les Romains auraient peut-être pu accepter cette religion comme une autre religion.
Mais les chrétiens s'en défendaient. Ils ne voulaient pas, justement. Ils ne voulaient pas se mélanger. Ah, et ils voulaient affirmer leur indépendance et le fait que leur religion, voilà, leur religion ne pouvait pas s'intégrer aux religions.
Et puis eux-mêmes ne participaient pas au culte romain. Et c'est un peu aussi
voilà.
ce qui pouvait les dénoncer d'une certaine manière.
Voilà, ça les dénonçait. Ouais. On est certain maintenant qu'il n'y a pas eu de persécution simplement parce qu'ils ne voulaient pas participer au culte romain. Non, ce n'a pas été une cause de persécution. Par contre, évidemment... quand on les recherchait, ça les dénonçait de voir qu'ils ne participaient pas au culte de l'empereur.
Et vous précisez aussi, évidemment, qu'il n'y avait aucun texte officiel.
Non,
il n'y a jamais. Pour persécuter, pour condamner.
Il n'y a pas eu de texte. Alors, ce qui fait que les persécutions, elles ont été à certains endroits dramatiques, mais c'était ponctuel et puis c'était localisé. Ça dépendait du gouverneur. Il n'y avait pas de texte. Bon, donc, certains gouverneurs étaient extrêmement durs. Ils faisaient chercher tous les chrétiens, ils leur demandaient d'abjurer. Et puis, s'ils n'abjuraient pas, ils avaient les pires martyrs pour eux. Et puis, d'autres laissaient faire. Donc, c'est à certaines époques, à certains endroits. J'ai essayé de le traiter rapidement.
Oui,
vous avez aussi des sources. Mais c'est intéressant de le repérer.
Et vous citez aussi les sources, justement, d'intellectuels romains, comme Tacite ou Suétone, des auteurs, historiens, qui témoignent aussi de ce christianisme et qui en parlent dans des termes...
C'était le plus profond mépris.
Oui, voilà. Mais je peux lire d'ailleurs un texte de Cels. Alors Cels qui était...
Cels, c'est autre chose. Enfin, c'est un petit peu plus tard.
C'est un peu plus tard, oui.
Là, c'est un philosophe complètement athée.
Oui.
Voilà. Donc,
oui. Mais qui, justement, pouvait être vu aussi comme quelqu'un d'éclairé, comme quelqu'un... mais qui, effectivement, ne comprenait pas ou méprisait un petit peu...
Oui, c'est-à-dire que Tacite, par exemple... Tacite, c'est un historien. Donc, Tacite, c'est pas tellement intéressé à ça. Il ne s'est pas tellement intéressé aux chrétiens. Bon, il en a parlé... un endroit ou un autre, mais il est relativement neutre par rapport à ça, sinon qu'il a du mépris. Cels, il est très opposé.
Oui. Hein,
et ce qu'a écrit Cels, on l'a par l'intermédiaire des textes d'Origène, hein, qui les a répétés.
Voilà.
C'est un peu plus tardif, mais c'est vraiment quelqu'un qui a dénoncé avec virulence les thèses chrétiennes. Voilà.
Ben, je peux vous en lire un petit extrait, parce que ça donne une bonne indication. Alors, il dit... Il est une race nouvelle d'hommes, née d'hier, sans patrie ni tradition, liguée contre toutes les institutions religieuses et civiles, poursuivie par la justice, universellement notée d'infamie, mais se faisant gloire de l'exécration commune. Tels sont les chrétiens. Ils tiennent des réunions secrètes. Ils s'y lient par un engagement plus secret qu'un serment et s'y unissent en vue de conspirer plus sûrement contre les lois et résister plus aisément aux dangers et aux supplices qui les menacent. Et des textes comme ça, vous en citez aussi des petites phrases.
Oui. Mais ce qui est intéressant, alors voilà, celle ça en rajoute, mais ils se font gloire de l'exécration. Oui. C'est ça un petit peu le point de départ. Et puis après, bon, il y a une exagération liée aux opinions des uns et des autres.
Oui, oui. Et donc il y a aussi tout un passage donc sur le martyr dont Étienne est la première figure connue. Vous expliquez aussi qu'il y a quand même, c'est là où vous êtes historienne, il y a une glorification, il y a une propagande aussi chrétienne.
Oui.
Il y a une martyrologie parfois excessive.
Voilà. Alors les documents qu'on a sur les martyrs, pour beaucoup, sont complètement impossible à traiter historiquement, hein, parce que justement, il y a une glorification, c'est tellement gros que c'est absolument impossible à croire. Hein. C'est insupportable à lire d'ailleurs.
Parce qu'ils vont avec force détail sur les tortures, sur.
Tout à fait. Bon, mais il y a eu quand même des martyrs, on pense qu'ils ont été des martyrs sérieux, qui n'ont pas recherché la mort pour la mort, qui n'ont pas recherché la torture pour la mort-torture. Et on a quand même des textes qui nous indiquent que l'Église, qui commençait à prendre forme au IIe siècle, ne recommandait pas le martyr pour le martyr, et disait au contraire, bon, écoutez, fuyez, hein, ne cherchez pas, n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup, fuyez. Et on a même dit, on a des sources qui nous disent que probablement, c'était une manière de discerner les bons chrétiens et les autres. C'est-à-dire qu'un vrai chrétien ne faisait pas exprès de se jeter dans la gueule du loup. C'était une manière de discernement de la grande Église. Bon, mais les sources qui parlent de ça, en disant les responsables de l'Église ne veulent pas qu'on aille se faire tuer pour le plaisir, elles sont peu nombreuses. Et au contraire, il y a tout un florilège, tout de textes qui disent, ils allaient, j'en cite quelques-uns qui sont presque drôles, parce que j'ai pas mis d'atrocité dans mon livre,
mais il y en a quelques-uns, ça
reste tout à fait lisible, oui. on peut le donner à des enfants, mais il y en a qui vraiment voulaient, on raconte une petite fille de 11 ans qui allait se dénoncer elle-même, qui allait voir le juge, etc. Bon. Alors ça a existé, mais ça a été condamné, voilà. Et enfin, il faut faire très attention aux documents que l'on lit et être très prudent. Par contre, l'Église s'est servie souvent de ces textes pour favoriser, glorifier le martyr. Et ça, c'est un petit peu compliqué. On n'incitait pas les gens à être martyrs, mais il y avait des prêtres dans les églises, enfin, qui disaient, qui les donnaient en modèle. Voilà, ça n'a pas toujours été très très glorieux, et surtout par la suite.
Ouais. Justement, en parlant de sources, donc les sources que vous citez, c'est évidemment le Nouveau Testament, les Évangiles, les Actes des Apôtres, des textes, comme on a dit, des pères de l'Église ou d'historiens de l'époque. Il y a aussi les sources apocryphes qui nous renseignent énormément sur Jacques, notamment. Parce qu'on a l'impression, alors c'est peut-être faux, que Jacques est passé dans une postérité liée à la gnose ou à une gnose même orientale, mais en tout cas toute la littérature apocryphe aussi apporte qui se développe depuis les années 1940, les découvertes de Nag Hammadi entre autres, qui se développe énormément, et du coup c'est vrai que cette source apocryphe est... Vous vous en êtes servi, j'imagine ?
Pas tant que ça.
Non.
Pas tant que ça, parce que c'est difficile. Enfin, on a une documentation à partir de là. On n'a pas tellement de documentation historique. Enfin, une documentation dont on puisse se servir pour, par exemple, pour raconter la vie de Jacques. Alors, ça donne une approche. Ça permet de situer dans leur contexte, et puis de ne pas avoir une seule vision qui serait la vision canonique, mais de là à avoir une biographie qui pourrait se faire à partir des textes gnostiques, des textes apocryphes, c'est difficile.
Oui. Et à la fin de votre livre, justement, ce qui est intéressant aussi, vous l'aviez déjà fait avec Jésus, c'est que vous nous proposez presque des exemples, des exercices comme ça, de lecture de textes. Alors vous avez fait un choix assez éclectique, mais du coup, ce serait intéressant que vous nous expliquiez pourquoi vous avez choisi ces textes. Alors, il y a une lettre de Paul, parce que là, je ne les ai plus.
Alors, je sais pas, je les sais par cœur.
Bon, allez-y.
Alors, j'ai commencé par le texte...
La chute du temple.
Non, c'est pas moi. Non, les quatre textes que j'ai commenté d'abord le Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Celui-là, je l'ai choisi parce que j'ai pensé que tout le monde connaissait sans doute, enfin, au moins un petit peu. Puis il y a toute une... au point de vue artistique, il y a souvent des représentations, les langues de feu, tout ça. Voilà. Donc j'ai commenté ça, parce que c'était assez proche, je pensais, du public que je pouvais avoir. Ensuite, j'ai...
De Listre.
Alors, Listre, ça c'est rigolo. C'est un texte des Actes des Apôtres dans lequel Paul est mis en contact avec des païens, mais des païens de chez païens. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient même pas le Dieu de la Bible. Donc c'est intéressant pour montrer, enfin c'est un peu unique. Paul, il leur a fait un sermon où il ne parle pas d'autre chose que du monothéisme, finalement. Et ça montre bien que, certes, il avait un discours stéréotypé, mais enfin, il s'adressait quand même à un public. Il ne va pas dire aux gens de Lystre que Christ est ressuscité, ils ne savent même pas qu'il y a un seul Dieu. Donc il leur dit, il y a un Dieu. C'est très pédagogique. Voilà.
Paul était très pédagogue.
Exactement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Après, j'ai choisi le texte de Lydie. Oui. Bon, il y a peut-être quelques personnes qui sont dans la salle qui ont entendu parler de Lydie et de, comment dire, de Paul quand il est allé à Thessalonique, où il a fondé une communauté justement dans une oikos, dans une maison qui était la maison de Lydie. Alors je dis que les personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont venues avec moi à Thessalonique.
D'accord.
Nous avions fait un voyage avec le père d'Agron et voilà. Et Lydie était au centre du voyage. Donc, le texte de Lydie, donc c'est la création d'une communauté. Là, c'est bien ce qu'on a raconté tout à l'heure. Hein, c'est typique. Et puis après, ben, j'ai voulu prendre un texte de Paul. Ça, c'était un peu compliqué parce que je ne voulais pas faire œuvre de théologie. C'est pas du tout l'objet du livre qui s'adresse à des étudiants ou à des gens qui démarrent. Donc, j'ai cherché dans les lettres de Paul quelque chose qui parle à tout le monde. Donc, j'ai pris le texte où il parle de l'institution de l'Eucharistie. Et donc, à la fois, ça montre comment étaient faites les communautés, comment elles fonctionnent. C'est la communauté de Corinthe. Et puis, comment le texte de l'Eucharistie, le premier texte de l'Eucharistie, est dans les lettres de Paul. Contrairement à ce que croient certains, c'est pas dans les évangiles. C'est Paul qui a le premier texte eucharistique. Voilà.
Merci beaucoup Françoise Ladouès, merci beaucoup à vous. Et bonne soirée à tous.